Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ravi de vous retrouver. Le nouveau président du Nigeria est donc entré en fonction aujourd'hui. Mouhamadou Bouhari, 72 ans, prend les rênes du plus grand pays d'Afrique, ou les reprend plutôt, puisqu'il avait accédé au pouvoir quelques mois il y a 30 ans par un coup d'État. L'homme va donc diriger le plus grand pays du continent, tant par sa population que par son économie. Les chantiers sont nombreux et le nouveau président le sait. Nous faisons face à des défis majeurs, a-t-il déclaré. Priorité dans son discours de ce midi, discours d'investiture, la lutte contre Boko Haram, mais les problèmes sérieux ne manquent pas. Chômage écrasant, on parle de 30% de la population active, chute du revenu pétrolier, panne récurrente d'électricité, pénurie de carburant, corruption et puis évidemment insécurité.
Les Nigériens ne regretteront pas de nous avoir confié des responsabilités nationales. Nous ne succomberons pas au désespoir et au défaitisme et nous pouvons régler tous ces problèmes.
Voilà, c'était Mouhamadou Bouhari qui, avec son parti, l'APC, la question se pose, ont-ils les outils pour lutter contre Boko Haram et relever les multiples défis du Nigeria? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Benjamin Ouget. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et puis avec nous, par téléphone, Tunde Fatunde. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie de la littérature francophone à Lagos. Vous vous trouvez actuellement à Cotonou, je crois, au Bénin. Et vous êtes aussi journaliste puisque vous travaillez avec Le Guardian, un quotidien anglais. Alors Benjamin Ouget, je voudrais commencer avec vous, commencer par cette thématique Boko Haram. Rappelons-le, 15 000 morts depuis 2009. Goodluck Jonathan avait a priori deux désavantages, dit-on, sur Mouhamadou Bouhari. D'abord, Mouhamadou Bouhari est du Nord et puis c'est un ancien militaire. Est-ce que ça fait de lui l'homme de la situation pour lutter contre Boko Haram, à votre avis?
Eh bien, en tout cas, l'un des avantages de Bouhari par rapport à Goodluck Jonathan, c'est, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui est issu du Sérail, c'est un militaire, donc il connaît bien comment ça se passe, et surtout, il va être davantage respecté par l'armée que Goodluck Jonathan ne l'était. D'autre part, vous avez dit qu'il était issu du nord du pays, et il aura certainement beaucoup plus de facilité à discuter avec la population, à avoir les gens de son côté, en plus de l'armée qu'il connaît bien, s'il a une bonne relation avec la population, ça va déjà être un avantage.
Électoralement, on l'a vu, il a été très plébiscité au nord.
Oui, les scores de Bouhari au nord varient entre 80 et 90%. Et donc on voit qu'il y a eu une réelle adhésion pour son projet.
Alors nous accueillons, vous l'avez peut-être entendu, un petit peu de bruit, Ebenezer Opkopko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint avec un tout petit peu de retard, quelques secondes. Vous êtes avocat et membre de l'association d'entrepreneurs France-Nigéria. Je voudrais d'abord faire réagir Tunde Fatunde, j'espère que la ligne sera bonne. Alors vous m'avez dit en préparant cette émission que vous étiez très optimiste quant à la capacité de Mouhamadou Bouhari à lutter contre Boko Haram. Pourquoi ?
Absolument, s'il vous plaît. Oui. La raison est très simple. Goodluck Jonathan, vers la fin de son régime, n'a pas lésiné sous les moyens pour pouvoir lutter contre Boko Haram. Aucune localité n'est plus entre cette secte. La grande forêt de Sambisa est pratiquement quadrillée par l'armée nigériane. Soutenu par les armées.
Donc, vous concédez que Goodluck Jonathan a eu quelques victoires sur Boko Haram. Mais alors, Mouhamadou Bouhari, est-ce que c'est l'homme de la situation pour lutter encore plus contre Boko Haram?
Non, c'est-à-dire qu'il va simplement continuer là où Goodluck Jonathan s'est arrêté. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va essayer de mettre en application les accords militaires entre les pays de la Tchad.
Oui, la force conjointe qui a été mise en place. Bon, pour vous, il n'y a pas vraiment de rupture, si j'ai bien compris. Alors, Ebenezer Okopko, vous êtes un proche de l'ancien président. Est-ce que vous estimez que Mouhamadou Bouhari a des qualités que n'avait pas Goodluck Jonathan?
des qualités qu'on n'avait pas à Goodluck Jonathan, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, si vous voulez, lorsqu'on regarde la structure de l'appareil sécuritaire au Nigeria, il y avait quand même une évolution. Il y a une personnalité qui est très importante dans la structure de sécuritaire du Nigeria. C'est celui qu'on appelle le National Security Advisor. Nous avions un général qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Azazi. Lorsque le président Jonathan avait nommé le général Azazi, le Nord, tout le Nord, vent debout, était contre monsieur le général Azazi. Pourquoi? Parce que il n'était pas du Nord, il n'était pas Yoruba, il n'était pas, en tout cas, il ne remplissait pas les conditions qu'ils attendaient pour occuper ce poste.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que si la lutte contre Boko Haram n'a pas été efficace, c'est parce que Goodluck Jonathan n'a pas été accepté par le Nord, c'est ce que vous dites?
Tout simplement ça, je vais vous le dire pourquoi. Parce que, à la place de général Azazi, un général du Nord a été, un colonel du Nord a été nommé, le colonel Dasuki. Le ministre de la Défense s'appelait Goussaou. Goussaou n'était autre que celui qui a occupé ce poste avant Dasuki. Donc nous avions, en tout cas, le président Jonathan avait mis des gens qui croyaient compétents pour s'occuper de l'armée et de l'appareil sécuritaire. Alors, lorsque le général Azazi était là, chaque fois que Boko Haram bombardait, on disait, oui, mais le général Azazi n'était pas compétent. Mais on n'a pas entendu les mêmes cris lorsque Goussaou et Dasuki s'en occupaient. Alors, je me demande pourquoi.
Il n'est pas question ce soir de faire le bilan.
Mais c'est fini.
Plutôt de se projeter dans l'avenir. Est-ce que vous pensez...
On se projette, mais on ne va pas oublier quand même le passé très récent.
Non, mais sans oublier
récent.
Celui qui est aux manettes à partir d'aujourd'hui, qui a pris ses fonctions, c'était ce midi, c'est Mouamadou Bouhari. Est-ce que, selon vous, il a les capacités requises pour lutter contre Boko Haram?
Je l'espère bien, c'est mon pays. Je ne souhaite pas que M. Bouhari échoue dans cette tâche, parce que c'est une tâche énorme. D'ailleurs, il a tout de suite changé de discours après les élections. Parce que le discours de l'élection, une fois les élections gagnées, il est revenu sur beaucoup de choses qu'il a dit, en disant oui, mais finalement, ça ne sera pas facile pour retrouver les filles de Chibok, par exemple. Les filles de Chibok, ils disaient non, mais non, on ne les a pas retrouvées parce que les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour les retrouver.
Il a dit aujourd'hui qu'il ferait tout son possible pour qu'elles soient retrouvées. C'était quand même une mention dans son discours. Benjamin Auger, je voudrais vous faire réagir à une autre annonce qui a été faite dans le discours d'aujourd'hui. C'est la mise en place d'un nouveau centre de commandement à Maïdougouri. Avant, il était à Abuja, ville plutôt du centre du pays. Donc là, c'est beaucoup plus proche de la zone d'action de Boko Haram. Est-ce que ça, c'est un tournant à mettre au crédit du nouveau président?
Je pense que c'est une décision symbolique. C'est-à-dire, c'est pour montrer qu'il fait quelque chose de nouveau, qui se rapproche justement des endroits où l'insécurité est la plus importante. Je pense qu'il fallait, dans son discours, parce que ça fait partie de son discours d'intronisation, qu'il marque un certain nombre de jalons importants pour pouvoir montrer qu'il fait les choses différemment. On va voir si ça suffit. Évidemment, c'est simplement une première étape. Mais je pense que du point de vue opérationnel, ça peut être tout à fait positif.
Et en plus, c'est symbolique. Toudé Fatoundé, si vous êtes toujours avec nous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça a été perçu, cette annonce d'un centre de commandement à Maïdougouri?
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie de la direction militaire à Abuja va se déplacer pour s'installer et coordonner la lutte contre Boko Haram avec les militaires des autres pays de la sous-région. Il ne faut pas oublier que nous sommes ce que moi j'appelle la troisième étape de la lutte contre Boko Haram. C'est-à-dire, la première étape, c'est qu'on a chassé Boko Haram des villes. La deuxième étape, c'est que Boko Haram a occupé certaines localités. Et l'armée, avec la collaboration des armées de la sous-région, ont repris cette localité. La troisième phase maintenant, c'est la phase la plus déterminante, c'est-à-dire détruire les nids et empêcher que Boko Haram ressurgisse.
Est-ce que de... Oui, excuse-nous, la ligne est quand même pas très très bonne avec vous depuis le Bénin. Et Benezer Okobko, est-ce que, à votre avis, Mouamadou Bouhari a de bonnes relations avec les présidents des pays alentours, ces présidents qui font partie de cette coalition qui est mise en place pour lutter contre Boko Haram, donc le Tchad, le Niger et le Cameroun?
Je pense qu'il aura plus...
Parce que Goodluck Jonathan n'en avait pas de très bonnes.
Il avait ses raisons parce que c'était une situation qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Et Bouhari est un musulman. Au Niger, vous avez un musulman qui est président. Au Tchad, vous avez un musulman qui est président. Si vous prenez le nord du Nigeria, le Tchad, le nord du Cameroun et le nord de Tchad, Cameroun et Niger. Ce sont des peuples qui sont à peu près, ils ont la même culture, si vous voulez. Les frontières ne sont pas des frontières qui sont des frontières...
Dans la lutte contre un groupe islamiste, on pourrait s'attendre à ce que ce ne soit pas forcément des musulmans qui se mettent d'accord ensemble, mais
ça facilitera les choses, parce que la pensée, la manière de penser, c'est la même chose. Lorsque, par exemple, si vous voulez, le président Jonathan avait des difficultés avec monsieur le président du Tchad, par exemple, c'est simplement parce que il y avait un ancien gouverneur de Borno qui était très lié avec le président du Tchad et qui ne faisait rien, absolument rien, pour faire en sorte que lorsque Boko Haram bombardait au Nigeria, lorsque l'armée nigérienne intervenait, il passait mais très facilement de l'autre côté. D'ailleurs, il y a beaucoup de changements aujourd'hui. Au Niger, un certain nombre de personnes ont été arrêtées récemment pour connivence entre les villageois, ou je ne sais pas, des chefs de village et le mouvement Boko Haram. La même chose au Cameroun. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui n'était pas là, en tout cas en refus.
Mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, hier, Goodluck Jonathan était encore le président.
Oui, non, mais Goodluck Jonathan était le président. C'est-à-dire que lorsqu'on ne veut pas le soutenir, on ne veut pas le soutenir. Ça, c'est de la politique, ça. Mais qu'on ne vienne pas aujourd'hui dire qu'il y a un problème d'incompétence parce qu'il y avait des problèmes politique et que tout le monde regardait ailleurs et refusait d'admettre qu'il y avait une difficulté, mais une difficulté politique à affronter Boko Haram dans cette région.
Alors Benjamin Ogier, avant de passer aux autres défis, hein, parce qu'ils sont nombreux à relever pour le nouveau président, est-ce qu'à votre avis, la figure de Mouamadou Bouhari va faciliter la coordination entre tous ces États qui veulent lutter ensemble contre Boko Haram?
Ben, je pense en tout cas que dès le départ de son mandat, il va faire en sorte que les relations soient bonnes. Il ne faut pas oublier que l'une des raisons pour lesquelles le sommet de Paris a été organisé il y a près d'un an, c'est parce que Goodluck Jonathan n'arrivait pas à parler à son homologue Paul Biya du Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'avait absolument aucune relation. À partir du moment où il n'avait aucune relation au niveau présidentiel, les armées ne fonctionnent pas. Et donc ça a été certainement une des grosses erreurs des premières années de Goodluck Jonathan, de ne pas faire en sorte que, au moins dans son environnement proche, les relations sont correctes.
Donc, il a dû absolument. Ce que vous voulez dire, c'est que ça ne peut être que mieux.
Ça ne peut être que mieux parce que ça ne peut pas être autrement. Et que Bouhari le sait et qu'il va falloir discuter avec des gens, même si sa présidence de 83-85 n'a pas forcément laissé de parfaits souvenirs aux pays de la région. Je pense que là, il va devoir faire un gros effort pour faire en sorte que les Tchadiens, qui sont devenus la puissance dominante de la région grâce à leur armée, les Nigériens et les Camerounais, travaillent sur la même ligne, en particulier sur un problème transfrontalier comme celui de Boko Haram.
Alors, si le Nigeria doit lutter contre Boko Haram, les vraies racines du conflit sont ailleurs. On parle beaucoup d'exclusion économique et d'exclusion sociale. Est-ce que, pour vous, finalement, la vraie priorité, ce n'est pas la lutte armée contre Boko Haram, mais c'est plutôt la lutte contre l'exclusion sociale, contre la misère qui a droit de cité au Nigeria? Qu'est-ce que vous en pensez? La priorité, elle est en fait économique?
Alors, la priorité, elle est évidemment militaire, parce que c'est maintenant, et des gens se font tuer encore maintenant au Nigeria, dans les trois états sous état d'urgence, donc elle est évidemment militaire. Mais ce qu'avait dit la personne dont vous avez parlé, le National Security Advisor Sambo Dazuki, c'est qu'il fallait un plan de long terme. C'est-à-dire qu'il faut un développement du Nord, et que la présidence Goodluck Jonathan a très 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 peu fait pour le Nord. et qu'il va falloir développer cette région-là, qui dans le temps était une région assez industrielle au niveau du textile, etc. Eh ben, il faut éviter que tous les gros projets structurants d'infrastructures ne soient uniquement que dans le sud. Et il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Comme le pétrole est uniquement dans l'État du Niger, que la vie économique est principalement à Lagos, donc tout est au sud, il faut faire en sorte que on redistribue peut-être différemment les richesses et qu'on fasse des projets structurants d'infrastructures vers le nord.
Alors, sur la redistribution des richesses, Ebenezer Okpokpo.
Je suis, bon, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec mon contradicteur, en tout cas mon ami de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que pour résoudre le problème de Boko Haram, le président Goodluck Jonathan avait mis en place, par exemple, une commission. Et l'un des présidents de cette commission n'était autre que notre ancien ministre des Affaires étrangères, le professeur Bolaji Akinyemi. Et tous ceux qui venaient, par exemple, disaient oui, mais Boko Haram était le résultat de la pauvreté au nord. Et le professeur Akinyemi disait, ça, c'est une fausse route. Pourquoi ? Parce que la pauvreté est partout au Nigeria. Et partout au Nigeria. Je suis de
Vous
la région.
Vous voulez dire qu'elle est autant au sud qu'au nord ?
Plus même peut-être au sud qu'au nord. Donc, lorsque on vient présenter la lutte de Boko Haram comme une lutte contre la pauvreté, etc., je m'inscris en faux contre ça, parce que si vous venez dans le delta du Niger, ma région d'origine, vous allez voir la pauvreté, vous allez voir la pollution environnementale. Le gouvernement fédéral ne fait rien, absolument rien, pour résoudre ce problème-là. Lorsque le MEND a commencé, le MEND...
Donc un groupe qui sévit dans le delta du Niger.
Oui, qui sévissait au nord... au sud du Nigeria. Nous n'avons pas tué des innocents. Le MENS n'a pas tué des innocents. Boko Haram ne peut pas utiliser la pauvreté aujourd'hui pour justifier une lutte qui
mais
n'en
alors,
est
sans
pas...
Sans faire
une.
Le lien avec Boko Haram, la question qui se pose, oui, c'est économiquement, le Nigeria n'est pas bien, je le disais,
économiquement, le Nigeria est pauvre partout. Le Nigeria est pauvre partout.
Et
il n'y a
qu'est-ce
pas
qu'il faut
une région.
Faire une réforme du secteur pétrolier, mieux redistribuer.
Oui, à l'exception peut-être de Lagos, qui est notre ville phare, et Abuja, vous allez partout, à Port Harcourt, Ibadan, partout, il y a de la pauvreté. Donc, on ne peut pas justifier, en tout cas, une lutte terroriste par la pauvreté au Nigeria.
Alors, je voudrais quand même qu'on dise un mot du secteur pétrolier. La réforme est importante. Alors, il y a un volet économique, il y a un volet politique, vous me disiez en préparant cette émission. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire ce qui, à votre avis, Sébastien Benjamin Auger, est important de faire pour le prochain président ?
Alors, ça fait depuis 2007 qu'on attend le nouveau code pétrolier qui s'appelle la Petroleum Industry Bill, que la ministre Dizani Madueke a promis à de nombreuses reprises, qu'elle n'a pas réussi à faire voter, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un désinvestissement assez spectaculaire des majors pétrolières, qui n'ont plus confiance, qui sont attentistes en tout cas, pour celles qui sont restées. Et le potentiel est là, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des réserves absolument considérables, première réserve de gaz du continent et deuxième réserve de pétrole du continent, et donc il suffit de faire en sorte que les sociétés pétrolières aient confiance et un cadre légal clair qui ne change pas.
Et là, il y a une volonté politique de Mouamadou Bouhari sur ce dossier.
Pour le moment, c'est uniquement des paroles. Goodluck Jonathan dit exactement la même chose que ce que Bouhari dit sur la PIB, c'est-à-dire qu'elle doit être votée. En tout cas, c'est un des dossiers prioritaires parce que les investissements dans le secteur pétrolier posent de lourds problèmes. La production pétrolière diminue, alors que dans le même temps, le vol de pétrole augmente et que donc la part du pétrole exporté diminue.
Alors ça, on est déjà vraiment pris par le temps. Pour la redistribution, c'est aussi très très important.
Là, pour la redistribution, c'est très important. Les régions pétrolières reçoivent 13% des revenus pétroliers. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles le MEND a existé de 2006 à 2009, c'est-à-dire qu'il voulait davantage d'argent, alors que un certain nombre d'États considèrent que les États du delta du Niger ont davantage d'emplois, ont davantage de facilités pour se développer. Beaucoup d'hommes d'affaires sont dans des sociétés pétrolières ou de services. Et c'est une vraie difficulté de répartir l'argent alors que la totalité d'une réserve est localisée uniquement dans une région. C'est un défi. Je ne crois pas qu'il ait parlé de ça à Bouhari. Je ne pense pas qu'il va augmenter le pourcentage de redérivation vers le delta du Niger. Mais la redistribution de la richesse en général est quelque chose de très important au Nigérien.
Voilà, nous avons des défis énormes et nous allons les prendre à bras le corps. C'est ce qu'a déclaré le nouveau président du Nigeria. Merci beaucoup à nos trois invités. C'est déjà la fin de cette émission. Benjamin Auger, Ebenezer Okpokpo et Tunde Fatunde. Bonne suite de programme sur RFI.